Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, insécurité au Burkina Faso. 11 gendarmes ont été tués, dont l'attaque de la gendarmerie de Saint-Enga dans le Sahel. À la une également, les résultats du premier tour du BEPC ont été délivrés aujourd'hui. Abdulkarim Sanogo, le concepteur du Bengale, a réussi à son examen. Aïcha Mouyenga, la jeune fille qui avait été touchée par balle lors du coup d'état du 24 janvier dernier, a également validé son examen. Tour d'horizon dans ce journal. Et puis la coalition des chefs coutumiers demande la libération de l'ancien président Roch Kabore. Réunis en assemblée générale, ils entendent promouvoir la paix au Burkina. Emmanuel Sanou est l'invité de la rédaction ce vendredi. Il est l'un des fondateurs de la Case des Inoubliables, une jeune association qui fait de son cheval de bataille l'immortalisation des personnes ayant contribué à l'édification du pays. Interview à suivre à la suite de ce journal. Voilà pour vos titres. Bienvenue. En sécurité au Burkina Faso pour ouvrir ce journal. Au moins 11 gendarmes ont été tués jeudi dans l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Enga dans la province du Séno, région du Sahel. Hier, 6 personnes, dont 5 militaires et 1 civil, ont également été tués dans 2 attaques, dans la boucle du Mouhoun et dans le nord. Ben Abbé Cabré pour le compte-rendu.
Selon l'armée, un groupe de présumés terroristes a attaqué hier matin le détachement du Garci, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de Barani, dans la province de la Kossi, région de la boucle du Mouhoun. Une vingtaine de terroristes ont été abattus, tandis que 3 autres ont été capturés. Au cours des combats, 4 gendarmes ont malheureusement été mortellement atteints, selon le communiqué de l'armée, précisant qu'on enregistre également une dizaine de blessés. Dans son communiqué, l'armée indique que des individus armés ont tenté une incursion dans les installations de la mine d'or en question. Face à la riposte des éléments du détachement militaire, les assaillants ont dû battre en retraite, explique l'armée. La contre-offensive aéroterrestre lancée immédiatement a permis d'intercepter une partie des assaillants qui tentaient de s'exfiltrer au nord de la mine. Un véhicule pick-up avec à bord au moins 10 terroristes a été détruit. 7 binômes terroristes sur des motos ont également été neutralisés, peut-on lire dans le communiqué. Dans leur fuite, les terroristes ont abandonné une importante quantité d'armement et de matériel divers de combat. Côté ami, on enregistre 2 décès, un militaire et un civil, et 9 militaires blessés qui ont été pris en charge, a affirmé l'armée dans le communiqué.
Veuillez nous excuser une erreur à la cabine technique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'instant, il s'agissait de l'attaque de la région du Séno. Et puis, justement, on parle de lutte contre le terrorisme pour poursuivre ce journal. La coalition des chefs coutumiers entend promouvoir la paix et la stabilité du territoire national. Pour eux, chacun doit y mettre du sien pour lutter ensemble contre l'hydre terroriste. À cet effet, la coalition a organisé une assemblée générale ce vendredi même à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les chefs coutumiers ont aussi demandé la libération de l'ancien président Roch Kabore, le compte-rendu de Moumouni Tamboura.
Au regard de leur proximité avec les populations, de leur capacité de rassemblement et de mobilisation, du fait de leur légitimité et de leur pouvoir de cohésion sociale, les chefs coutumiers constituent alors un maillon fort dans le dispositif interne de prévention et de gestion des conflits. C'est donc pour renforcer la cohésion sociale, la paix, qu'intervient cette Assemblée générale qui a pour objet de contribuer à la lutte contre le terrorisme. Le Yamtenga Wapasi Naba a fait des doléances aux autorités afin que le Burkina redevienne une destination à ne pas manquer, mais aussi
nous demandons l'allègement de la situation sécuritaire
de l'ex-président M. Roch-Marc Christian Kabore.
André Nikiema, qui a représenté le ministre des Affaires religieuses et coutumières, promet de porter le message aux autorités compétentes.
Je pense que nous allons transmettre à qui de droit les doléances qui ont été formulées ce matin par la coalition.
Lorsque les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent. C'est par ces mots que la coalition des chefs coutumiers appelle à l'unisson pour que la stabilité revienne au pays des hommes intègres. Les doléances ont aussi porté sur le retour de la paix dans un bref délai et sur la flambée des prix des denrées. Ils demandent alors aux autorités plus d'efforts afin de faciliter l'accès à ces denrées.
On parle éducation à la suite de ce journal. Les résultats du premier tour du BEPC ont été délivrés aujourd'hui vendredi. Jamais les résultats d'un candidat au BEPC n'auront été aussi attendus. Abdulkarim Sanogo, l'élève qui avait déclaré que le sujet d'anglais était bengal, a été admis au BEPC à l'issue des épreuves du premier tour. Absent lors de la proclamation des résultats, il s'est fait représenter par son fan club ce matin au lycée Bambata, le centre de composition de l'élève. Explosion de joie et remerciements étaient au rendez-vous. Je vous propose le compte-rendu de Charles Da.
Ceux qui ne croyaient pas, vous avez vu maintenant. Donc tous ceux qui ont fait leurs promesses là, on attend maintenant les résultats. Puisque le petit a fait sortir le résultat. Big up, big up à Omega. Si nous sommes ici, c'est grâce à Omega. Si le buzz est lancé, c'est grâce à Omega. Donc, applaudissez pour Omega. Oh, allez.
Retour cette fois-ci au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou pour la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC. 515 candidats ont été admis au premier tour sur 1551 candidats. La joie était au rendez-vous, mais aussi de la tristesse. Retour sur les temps forts de ces résultats avec Gisèle Thirogo et Abdulaziz Zoulabou.
Le BEPC, là, on l'a validé. C'est validé.
Vous l'aurez compris, il s'agit là d'un candidat débordant de joie après avoir entendu son nom parmi les admis du premier tour du BEPC. Ici, au lycée municipal de Vénégré, ils sont plusieurs comme lui pour qui l'année s'achève en beauté. C'est un peu le cas de cette candidate qui, après deux tentatives, se voit sa persévérance enfin récompensée.
Dieu dit Dieu merci parce que c'est grâce à lui, pour, avec les prières. Merci à lui parce que sans lui, je ne pense pas que j'allais m'en sortir. Je lui remercie beaucoup aussi.
Le débordement de joie donne souvent lieu à des scènes de crise, comme l'assistance apportée à une fille qui, à un moment donné, manquait de souffle. Convaincu que seul le travail paie, ce candidat ne semble pas du tout surpris par son succès au regard des efforts fournis.
Ils ont donné 9 mois, donc et tout le monde sait que si tu bosses pas, tu ne vas pas avoir, tu dis opposé, tu vas avoir. C'est comme ça, ils ne vont jamais nous poser des questions hors de ce qu'ils nous ont donné. Donc,
ce résultat est à mettre au compte des enseignants, mais aussi des parents et amis qui ont été d'un grand apport pour cette candidate.
Je remercie mes parents, mes enseignants, ceux grâce à qui je suis ici aujourd'hui. Et je suis vraiment fière d'avoir mon BPC. Et je sais que ma maman est fière de moi. Et je l'aime où qu'elle soit. Vraiment, je les remercie eux tous.
À côté de ceux qui manifestent leur joie, se trouvent ceux-là pour qui il va falloir tout reprendre à zéro. Difficile à comprendre pour ces derniers, à l'image de ces deux candidates inconsolables. En ce qui concerne les candidats admissibles, l'heure n'est pas au découragement à laisser entendre un heureux candidat qui les invite à redoubler d'efforts.
Je viens d'avoir mon BPC, je suis très content. Je souhaite à ceux qui n'ont pas eu beaucoup de courage, ceux qui sont au second tour, n'abandonnez pas. Courage à vous, vous allez gagner. Que Dieu vous bénisse tous.
Le centre du lycée municipal Vénégré avait au total 1551 candidats repartis en 4 jurys. 515 sont admis à l'issue du premier tour et 513 autres sont attendus ce lundi 13 juin pour les épreuves du second tour.
Je vous le disais en titre, Aïcha Moyenga a elle aussi décroché ce vendredi le BEPC à l'issue des épreuves du premier tour. Rappelez-vous, elle avait été touchée par une balle lors du coup d'État du 24 janvier dernier et dont la non-prise en charge par les autorités avait été dévoilée par un reportage d'Omega Media. Après 2 mois passés à la maison pour se remettre de l'impact de la balle logée dans ses poumons, elle jubile aujourd'hui. Que d'émotions à découvrir dans ce reportage de Gilles Dasda.
De retour de son centre de composition du BEPC, Aïcha Moyenga est accueillie triomphalement chez elle, dans le quartier d'Apoya. La réjouissance prend place et cette dame d'un certain âge, habillée de son boubou, danse et crie littéralement. Retournons un peu plus tôt ce vendredi, ces jours de proclamation de résultats au sein du lycée Bogodogo. Une candidate a le sourire. Cette Aïcha Moyenga, elle vient de décrocher son BPC. Fièrement, elle nous montre son nom sur la liste des admis. Elle n'est pas venue seule. Maman n'est pas bien loin pour célébrer la bonne nouvelle. Ce n'est malheureusement pas le cas pour tous. Aïcha Moyenga, c'est cette adolescente blessée par balle lors du coup d'État. Des semaines durant, elle a vécu avec un projectile dans son poumon. Sa scolarité semblait alors compromise. Et pourtant, elle s'est accrochée dur. Aïcha Moyenga, malgré tout, elle était sûre de son fait. Extrait. Retour dans la famille Moyenga à Dapoya. Les voisins sont maintenant réunis et c'est l'heure des remerciements. Adama Zongo est la mère d'Aïcha. Brevet en poche, Aïcha a désormais pour ambition de poursuivre son rêve, celui de devenir médecin, exercer cette profession qui a permis de lui extraire du poumon une balle et lui offrir cette chance de continuer ses études. Mais en attendant, elle continue les contrôles dans un centre hospitalier pour vérifier que côté santé, tout va bien.
Éducation toujours, cette fois-ci on va à l'Institut de l'Unité Africaine, ex-IIM, qui participe à la promotion de l'intégration et de l'excellence en milieu éducatif. L'Institut a entamé sa 2e session des examens 2022 ce vendredi à Ouagadougou, à l'Unité Africaine. Tout est mis en œuvre pour les personnes vivant avec un handicap afin qu'ils se sentent épanouis. Elles composent de façon aisée et sans aucune discrimination. Eh bien, vous le verrez dans ce reportage de Pierre Badolo.
L'unité africaine de Ouagadougou UA fait de l'intégration son cheval de bataille dans ses établissements. En plus de la rigueur dans la formation, l'ex-IIM devenu UA ne veut pas de discrimination, de distinction ni de rejet de l'autre. Les personnes vivant avec un handicap sont facilement intégrées et familiarisées aux autres au sein de l'Institut. Aliounou Benga, directeur général de l'Institut UA.
Nous sommes très stricts par rapport aux règlements et les étudiants ne vous démentiront pas. Vous êtes portant dans le suivi donc des examens, il pourra mieux vous témoigner la rigueur de façon général au règlement défini pour le bon fonctionnement de l'institution. C'est un point fort de l'institut et nous ne badinons pas avec nos règles, nous ne badinons pas avec nos règlements parce que toute la qualité de l'enseignement repose sur cette rigueur aujourd'hui. Pas d'exclusion chez nous. Tous les étudiants sont au même pied d'égalité, donc ont les mêmes avantages, les mêmes opportunités et travaillent dans les mêmes conditions de travail. Donc l'objectif, comme je l'ai dit et je le redis, donc si on fait des parties prises, cela veut dire que ça va être une formation à double vitesse qu'ils puissent bénéficier donc des mêmes avantages et des mêmes conditions de travail.
Les personnes à mélanine, communément appelées albinos, sont acceptées sans aucune distinction au sein de l'institution UA, même si certains ont connu des frustrations par le passé dans d'autres établissements. Gustave Konaté, étudiant en communication.
Concernant l'intégration, je peux dire qu'il n'y a pas de souci. Hein. On ne se sent même pas différent en fait. Quand on est ici, on est pareil. Pas de discrimination, il n'y a pas de stigmatisation. On est tous pareils ici. On ne sent pas la différence en fait.
Djamila Toukinda est une personne à mélanine. Loin d'être marginalisée, elle est acceptée de tous au sein de la grande famille de l'établissement UA.
Disons bien que IIM ici, côté intégration, avec mes amis, je ne suis pas marginalisée. Je suis toujours acceptée, malgré que je n'ai pas la même couleur de peau que les autres.
Révolution dans le secteur du BTP, la société Building Information Modeling, créée en 2017 par des ingénieurs burkinabés, veut amorcer la transformation digitale de l'industrie du BTP en Afrique. À cet effet, elle organise une première édition du Salon international de l'innovation de l'industrie du BTP sur le continent. Ce salon vise à favoriser l'entrée du BTP de l'Afrique francophone dans l'ère du numérique afin de contribuer à leur développement économique. La société a présenté ses objectifs lors d'une conférence de presse ce vendredi à Ouagadougou. Adja Konaté et Régis Bonny pour nous en dire plus.
L'importance du bâtiment et des travaux publics au Burkina Faso et ailleurs n'est plus à démontrer. Cependant, l'innovation dans le secteur fait défaut sur le continent. La BIM, Société Building Information Modeling, consciente de cela, veut créer des emplois et des richesses dans les différentes contrées de l'Afrique. Fabrice Yangané, président du comité d'organisation du salon.
Le secteur du BTP, c'est un secteur qui est très important pour l'économie nationale et internationale à différents échelles. Et au vu de l'importance de ce secteur, en fait, l'innovation, il paraît très important qu'on associe l'innovation à ce secteur. Pourquoi l'innovation? Parce que on remarque qu'aujourd'hui, l'innovation doit être considérée comme une question de survie. Elle favorise la productivité, la qualité des services proposés et également le développement des compétences clés. Alors notre constat est que le secteur du BTP au Burkina et en Afrique de façon générale, c'est l'un des secteurs qui est difficilement perméable aux innovations.
La BIM, pour contribuer pleinement à la réussite du domaine, a fait appel à des experts qui viendront partager leurs expériences les 24 et 25 juin prochains. Question de découvrir les innovations dans les infrastructures, les équipements et dans le building. Ismaël Ouirago, secrétaire général de la BIM.
On aura des conférenciers qui viendront d'Europe pour venir traiter en fait de la thématique. Parce qu'il faut qu'on le dise, hein, le BIM n'est pas encore développé en Afrique. Donc c'est essentiellement en Europe que les gens ont l'habitude de l'utiliser. C'est pour cela que nous avons fait appel à des experts européens pour venir s'entretenir avec toutes ces personnes-là qui viendront pour assister à l'événement.
La première édition du salon connaîtra la participation de plus de 200 professionnels du BTP ressortissant d'une dizaine de pays d'Afrique et d'Europe.
Autre rendez-vous, eh bien, c'est Albi Week du 10 au 15 juin. L'association des femmes albinos de Burkina Afab et la fondation Slamazon ont procédé ce vendredi à Ouagadougou au lancement de la semaine de l'albinisme dénommée Albi Week. Pour la 4e édition d'Albi Week, le thème retenu est « Inclusion et résilience des personnes albinos face aux défis du changement climatique ». Plusieurs activités sont prévues lors de cette semaine qui se tient du 10 au 15 juin. Le compte rendu de la cérémonie avec Valérie Traoré et Yacouba Ouilio.
Inclusion et résilience des personnes albinos face aux défis du changement climatique, tel est le thème de cette 4e édition d'Albi Week. Le climat est un facteur très influent dans la vie des personnes albinos, car très sensible aux effets du climat. Maïmouna Déné, présidente de l'Association des femmes albinos au Burkina Faso, donne plus de détails sur le choix de ce thème.
Alors, il faut dire que sur le plan international, le thème choisi, c'est « Unis pour faire entendre notre voix ». Et nous, en plus de nous unir pour faire entendre notre voix, nous pensons qu'il faut vraiment un travail pour pouvoir mieux inclure les personnes atteintes d'albinisme. Parce qu'on a parlé d'inclusion et résilience. Il faut dire que le Burkina est un pays fortement ensoleillé. Donc, ça fait que beaucoup de personnes sont victimes de cancers de peau.
Le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire a toujours accompagné les personnes atteintes d'albinisme à travers plusieurs mécanismes. L'action du dit ministère n'est pas perceptible sur le terrain en raison du contexte difficile actuel que traverse le Burkina Faso. Guetta Wende Saba, conseiller technique du ministère, représentant le ministre de la Solidarité nationale.
Le ministère fait déjà beaucoup en faveur du handicap en général et de l'albinisme en particulier. Si on ne voit pas très bien actuellement l'action du ministère, c'est surtout lié aux questions que nous tous nous connaissons, les questions de l'action humanitaire liées à la sécurité. Sinon, le ministère, comme toujours, fait beaucoup de choses et le ministère est accompagné par ses partenaires.
Albi Week s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme décrétée par l'ONU. Au Burkina, c'est depuis 2019 que la semaine de l'albinos est célébrée en marge de la journée de sensibilisation à l'albinisme. Cette édition se tient du 10 au 15 juin avec un programme étoffé dont une marche prévue pour le 13 juin prochain dans le but de remettre un plaidoyer au président de la dite commission.
Or, de chez nous, le président du Nigéria lance un appel à ses homologues du Mali et du Burkina Faso pour lutter contre l'insécurité au Sahel. En visite hier dans la région de Tera, dans la zone des trois frontières qui subit la pression des terroristes et où quelques 13 500 personnes y sont déplacées, Mohamed Bazoum a profité de la proximité de Tera avec ses voisins du Mali et du Burkina pour lancer un appel à la mutualisation de leurs actions contre les terroristes. Écoutez le président nigérien Mohamed Bazoum.
Quand vous passez la frontière du Niger, vous n'avez affaire qu'à des espaces qui sont occupés par les terroristes. Et ça rend difficile le travail que doivent faire nos forces. C'est pourquoi il est souhaitable, il est urgent, c'est toute ma prière, que les pays frères du Mali et du Burkina Faso puissent se relever et que nous puissions coordonner nos moyens, nos actions, afin de garantir la sécurité aux populations et priver les terroristes de profondeur stratégique dont ils ont besoin pour commettre la forfaiture à laquelle ils se livrent sur les populations de part et d'autre de nos différentes frontières.
Au Cameroun, une attaque perpétrée hier dans l'ouest du pays à la bordure entre le nord-ouest anglophone et l'ouest francophone a causé la mort de 5 gendarmes et fait 2 blessés graves. Le chef milicien, chef sessionniste général Nopiti, en français général sans pitié, a revendiqué cette attaque. Une dizaine de civils ont également été enlevés. C'est ici que prend fin ce journal mis en onde par Adama Konaté à la retransmission Facebook Ibrahim Niaoné. Merci à vous de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct. L'invité du jour. L'invité du jour.
Emmanuel Sanou, bonjour.
Et bonjour Monsieur Abdelaziz.
La case des inoubliables, que doit-on entendre par là?
La case des inoubliables, c'est comme le Panthéon en Italie, où le Panthéon en Italie, c'est un lieu où on rend hommage aux dieux. Le Panthéon en France, c'est un lieu où on repose les reliques des gens qui ont œuvré pour la vie de la nation française et qu'on ne doit pas les oublier. C'est la même chose que nous voulons installer au niveau du Burkina Faso en désignant comme symbole une case et un baobab.
Quels sont donc les objectifs que vous poursuivez et quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour les atteindre?
Comme je viens de le dire, l'objectif, c'est de rendre des hommages populaires à certaines personnes qui ont œuvré pour le développement de ce pays et à déposer dans leur œuvre dans un espace culturel pour que la génération ait un point de référence pour mieux les connaître, que leur œuvre ne tombe dans les oublis. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif majeur, c'est faire la promotion de la paix et de l'intégrité.
Quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs?
Nous avons démarré nos activités depuis le 1er de ce mois. Et la première activité, nous avons tenu une conférence de presse. Et deuxième activité qui partira du 7 au 15 octobre, c'est faire des reportages pour comprendre l'impact du colonialisme sur notre jeunesse, sur notre génération. L'impact du néocolonialisme sur notre génération. Et le comportement de nos élites politiques après les indépendances sur notre société. Et quel est le résultat que ça nous donne aujourd'hui? Donc, notre deuxième étape, c'est d'abord nous faire comprendre, nous faire connaître. Et la troisième étape, c'est rendre des hommages populaires du 24 octobre au 1er novembre à des personnes que nous allons désigner.
Vous avez, lors d'une de vos sorties, donné votre lecture sur la situation nationale, notamment sur la crise sécuritaire. À cette occasion, vous avez affirmé, je cite, « Aucun Burkinabé ne peut résoudre notre problème de sécurité en moins de 7 ans ». Sauf s'il vend toutes les richesses de notre sous-sol. Qu'entendez-vous par là?
Moi, je ne crois pas que en 3 ans, des nouvelles autorités ils peuvent résoudre ce problème-là. Je ne crois pas. C'est pas en 5 mois. Dans 5 mois, on s'entend à ce qu'ils fassent un bilan. La crise que vit le Burkina Faso est une crise très, très, très profonde. C'est une crise sous-régionale. Je peux dire même que c'est une crise de recolonisation de notre richesse. Présentement, nous parlons des occupations de nos terres. Voyez le cas de Djibo. Voyez les images que la presse nous fait parvenir. Mais sachez qu'à Djibo également, il y a un Eldorado où on ne sent pas la crise, où on exploite de l'or. Et ceux qui vivent là-bas ne sentent pas la crise. À quoi cela est dû? Donc la crise est tellement profonde que c'est pas uniquement avec les armes qu'on peut arriver au bout de cette crise. Comprenez, c'est pas en 5 mois.
Quelles sont donc les propositions que votre association pourrait avoir à l'endroit des autorités pour une sortie de crise ou pour apaiser le climat social?
Pour apaiser le climat social, nous ne voulons que les autorités en place associent toutes les classes politiques, les membres de la société civile, à travailler pour nous faire sortir un schéma directeur qui puisse nous permettre d'avoir un schéma de développement durable de notre pays par l'exploitation de nos richesses propres à nous. Donc un schéma de développement propre à nous de 25 ans que tous les partis politiques qui vont venir seront amenés, invités à suivre exactement ce schéma de développement. Parce que ça nous permettra de connaître la répartition de nos richesses. D'où part l'exploitation de nos sous-sols et qu'est-ce que nous utilisons par l'exploitation de nos sous-sols pour construire un Burkina nouveau et meilleur. C'est un cri de cœur que nous lançons au MPSA d'associer toutes les classes politiques pour des prises de décision.
Emmanuel Sanou, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.